Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Comme annoncé, chers amis, il vous est proposé le thème suivant, devenir hostie. Je vais utiliser un gros mot, vous inquiétez pas, on est dans une église, je vais rester poli. Mais c'est quasiment devenu un gros mot dans l'église que de parler de spiritualité victimale, que de parler d'offrande de soi. Devenir hostie, c'est pour rendre le produit vendable. Mais il s'agit bien de spiritualité victimale, de devenir une âme victime. On pourrait dire ceci, tout le monde souffre ici, pas de manière catastrophique, je ne veux pas exagérer, bien que tout le monde souffre, tout le monde est victime de quelque chose, mais autre chose, de devenir victime, est-ce que ça va? C'est-à-dire que dans un premier cas, tu subis, dans un deuxième temps, tu choisis et tu offres. Et ça change tout. Tout. Saint Paul, s'adressant aux nouveaux convertis, comme aux anciens, il a un discours unique que vous trouvez dans l'Épître aux Romains. Parole souvent entendue. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. N'êtes-vous pas frappé par le décalage entre la pastorale de saint Paul, et je vais parler de moi comme ça, ça me permettra de pas parler de ce qui se fait, mais regardez le décalage par rapport au discours actuel de formation des laïcs ou même dans les communautés religieuses. On ne dit plus ça. On a peur de dire ça. Non, on a honte de dire ça. Comment se fait-il que le discours religieux, la formation spirituelle des catholiques en soit venue à occulter cette dimension de l'identité du baptême qui est de devenir hostie? Regardez comme les mots « spiritualité victimale » ont été complètement évacués. Et je vous demande pas de mettre des cartons rouges, de chercher des boucs émissaires et des responsables. On est tous dans le bain. On est tous un peu victimes et on est tous un peu responsables. Regardez, quand vous prononcez le mot « âme victime », j'ai déjà fait ça à la télévision ou sur des ondes radio. Et en face, on vous dit « vous dites quoi ?» s'offrir à Dieu en sacrifice, immolation de soi, tout ce registre de vocabulaire a disparu de la prédication commune. La question est donc celle-ci. Saint Paul est-il rétrograde? Ce qu'il considère comme appartenant à l'identité du disciple du Christ, s'offrir en sacrifice, appartient-il à un passé révolu ou ce langage est-il incompatible avec l'esprit moderne ? Ah, la modernité, on en a plein la bouche. Alors je vous propose, puisque nous avons entendu la parole de Dieu qui dit « Offrez-vous en hostie sainte », essayons de voir à grandes étapes dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui ce qu'il en est de ce discours. Un des grands témoins, saint Augustin. Ne cherchez pas en dehors de vous l'hostie dont vous avez besoin. Cette hostie, vous la trouvez en vous-même. C'est toi. Maintenant, puisqu'on est dans la maison de notre chère Marguerite Marie, de notre cher saint François de Sales, Claude et tout le reste, écoutez, lors d'une retraite de 1684, sainte Marguerite Marie, la voyante de Parelle Moniale, raconte « Jésus, mon souverain maître, épousa mon âme, changeant mon cœur en une flamme de feu, dévorant de son pur amour, me faisant entendre que tout en m'ayant toute destinée à rendre un continuel hommage à son état d'hostie, l'état d'hostie à Jésus, et de victime dans le Saint-Sacrement, je devais à mon tour, moi aussi, m'immoler continuellement par amour d'adoration, anéantissement et conformité. Deux mots importants. Si tu les as pas dans la tête, ce langage est imbuvable. Amour d'adoration. La spiritualité victimale n'est pas une spiritualité sanguinolente. Ce n'est pas du masochisme, ce n'est pas du dolorisme. C'est juste, si on peut dire juste, de l'amour porté à haute température. Sans doute qu'il nous manque ce fameux amour. Ensuite, un autre mot extrêmement important, conformité. Je vais y venir, c'est la partie la plus importante de notre entretien. C'est l'histoire de la conformité de ma volonté à la volonté de Dieu. Là est l'essentiel. Maintenant, puisqu'on a tendance à opposer Thérèse de Lisieux à Marguerite Marie, je dirais, la subtile aujourd'hui, c'est quoi? Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué ça. On parle de Thérèse de Lisieux pour expliquer Marguerite Marie, comme si Marguerite Marie n'était pas trop fréquentable. Et donc, on fait appel à Thérèse de Lisieux, qui bien sûr est à l'eau de rose. Sauf, comme je le dis souvent, dans les roses, il y a des épines. Mais bien sûr, elles sont évacuées. Écoutez, Thérèse. Il me semble, Jésus, que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement, écoutez bien, il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Dieu, son cœur est comme comprimé. Il y a des flots d'amour qui sont en lui infinis. Quand une âme se livre à Dieu dans la vocation qui est la sienne, tu n'as pas à rentrer, si tu es laïque au cœur du monde, tu n'as pas à rentrer au monastère. C'est dans ta vocation. Une âme qui se livre à Dieu permet à Dieu de se soulager. C'est-à-dire, enfin, je peux donner. Enfin, je peux me soulager. Pour vous le montrer, je voudrais vous donner un petit souvenir d'enfance. Mon grand-père était agriculteur, une sorte d'armoire à glace de 120 kilos, à qui un verre de muscadet faisait pas trop peur. Et j'étais tout petit, on m'a raconté ça après. Et je vais le visiter, et puis on parlait à cette époque un petit peu patois. Et dans les collines où je suis né, ça s'appelle les coteaux, eh bien on entendait les vaches. Et le patois de l'époque, c'était les vaches qui brament. Elles meuglaient, quoi. Alors j'arrive et je vois à la stature mon grand-père. Oh ! Dis grand-père, pourquoi elles pleurent les vaches ? Ah, mon petit Joël, c'est parce qu'il est 4 heures. Dans 1 heure, on va aller les traire. Elles pleurent parce qu'elles ont trop de lait. On va les soulager. Si j'osais filer la comparaison, Dieu a trop de lait. Quand une âme se livre, Dieu peut se livrer. Quand tu as compris ça, il y a beaucoup de choses dans ta vie chrétienne qui vont se remettre à l'endroit. Toi, tu penses que être chrétien, c'est partager son carambar avec sa voisine, c'est se livrer à Dieu. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas partager ton carambar. Mais la dimension verticale est première. Être chrétien, même si on est célibataire au cœur du monde, c'est un mariage avec Dieu, quelle que soit la vocation. Alors bien sûr, mes sœurs, vous avez signé, vous n'avez pas le droit de passer à côté. Hein. Alors avançons. On pourrait se dire, Thérèse de Lisieux, ça date un peu. Est-ce que le Concile Vatican II, qui soi-disant a fait une révolution, on va voir que c'est peut-être pas si vrai que ça. Est-ce qu'il en parle? Eh bien oui, il en parle. Écoutez. Dans la Constitution sur la liturgie, au numéro 48, il est dit « Les fidèles, tout le monde est fidèle du Christ, les fidèles participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée formée par la parole de Dieu, se restaurent à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu, offrant Jésus, la victime sans tache, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes. » Pour parler le langage très populaire, c'est donc pas une affaire de curé et de bonne sœur. C'est une affaire d'Église, l'ensemble de l'Église. Ce n'est donc pas par esprit de contradiction, voyez-vous, que je prends ce thème, même si j'ai bien conscience, quand j'ai dû écrire cette retraite, qu'il y avait un décalage. Ce n'est pas par esprit de contradiction, c'est tout simplement pour retrouver un trésor qui a pu être abandonné. Parler de spiritualité victimale, ce n'est donc pas un retour en arrière, c'est un retour en avant, très exactement. C'est un retour aux sources. Et donc, si vous pratiquez la spiritualité victimale, vous avez un train d'avance. Le monde vous dira que vous avez un train de retard, mais vous êtes très en avance. Où s'enracine la spiritualité victimale? C'est extrêmement simple. La cinquième préface du temps pascal dit à propos du Christ, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Ça va? Quand on a dit ça, on a le fondement. Pourquoi? parce que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et le disciple que je suis, que tu es, est invité à reproduire les traits mêmes de son maître. Je dirais même plus précisément, le disciple est à se faire capacité pour recevoir l'état victime d'hostie du Seigneur Jésus pour le vivre à son tour. C'est un point important, mes amis. Il ne s'agit pas de copier un modèle qui resterait extérieur. Il s'agit de dire à Jésus, « Je ne sais pas être victime, mais toi tu le sais, puisque même dans la gloire, tu es en état d'immolation éternelle. Viens en moi être victime, viens en moi m'apprendre à être offrande. » Est-ce que ça va ? Alors, mes chers amis, j'avais deux solutions en préparant cet entretien avec vous. C'était soit je faisais toutes les têtes de chapitre et on aurait survolé, mais finalement on aurait entendu des mots, mais sans voir la consistance, j'ai préféré ceci. Je vais aller au cœur du réacteur. Je vais aller à l'essentiel de l'essentiel. Bien évidemment que dans la spiritualité victimale, il y a des harmoniques de réparation, d'expiation, de mortification, d'offrande de soi, tout ce que vous voulez. Je ne méprise pas ça, mais je vais au cœur du réacteur. Parce que ça, si nous le voulons, cela peut changer notre vie dès maintenant. Vous ne pouvez pas savoir d'où j'arrive, et je ne vous le dirai pas par discrétion. Mais là, j'arrive, ça a duré que 4 jours. J'ai vu un prêtre qui quasiment n'était plus prêtre. Vous m'entendez ? D'ailleurs, il bossait. Voilà. Et Jésus l'a touché. Voilà. Et il va partir pas du tout le même. Est-ce que tu vas entendre, mais ici, ou comme dirait saint Thomas d'Aquin, circumgiratio, de la tête au cœur, du cœur à la tête. En tout cas, la balle est dans ton camp. Moi, je te dis ce qui nourrit ma vie, ce qui l'a changé, ce qui donne beaucoup plus de sérénité, ce qui rend amoureux du bon Dieu. Enfin, tout, quoi. La balle est dans ton camp. Alors, le cœur du réacteur pourrait s'appeler ceci. Il s'agit de rejoindre Jésus qui me rejoint. Ah, c'est ça ? C'est hyper simple, mon père. Ben, on va voir. C'est simple, c'est très simple. Sauf qu'il faut inverser le mode de fonctionnement. Alors, je vous propose 2 parties. En toute chose, voir la main de Dieu et la volonté de Dieu qui me rejoint. Je répète. En toute chose qui m'arrive, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant, une autre manière de parler, dans l'événement, dans l'instant présent, Jésus permet que je vive quelque chose et il me dit, Joël, je veux que tu le vives avec moi. Langage, vous voyez au passage, qui n'existe plus. On n'ose plus dire ces choses. Mais mon père, quand il arrive le mal, il est dedans, même s'il ne le veut pas directement. Il est dedans et il t'attend. Vas-tu t'imposer la double peine avec la souffrance elle-même et le fait de dire non qui va décupler ta souffrance ? La balle est dans ton camp. Ce que j'ai essayé de vous dire à l'instant, c'est arrêtons de subir les événements. Choisissons-les. Et quand on les choisit, on en devient le maître. Et surtout, on permet au divin maître de nous changer. Regardez le Seigneur Jésus. À la messe, il est dit à la prière eucharistique, « Il entra librement dans sa passion. » Traduisez. La passion, c'est pâtir. C'est donc du domaine du subir. Et Jésus, dans l'amour, pour obéir au Père et par amour pour nous, va choisir la passion pour inverser la mort en vie. Et Pilate lui dit, pauvre gars, tu sais que j'ai le pouvoir de te faire... Jésus lui dit, mais tu n'aurais pas ce pouvoir si mon Père ne te l'avait pas donné. Curieusement, Jésus va subir la passion, mais en la choisissant, il devient le chef d'orchestre. Revisite tes passions. Je ne parle pas les passions de l'âme. Je parle de ce que tu subis, de ce qui te fait souffrir en toi, autour de toi, qui a un impact sur toi. Voir la main de la Providence, même quand on voit rien, quand on voit plus rien. Avouez-le, chers amis, ce n'est pas trop difficile de voir la main de la Providence, comme dit le langage populaire, quand tout baigne. Mais quand tout coule, que le bateau coule, là on a beaucoup de peine à voir la main de la Providence. On ne veut pas la voir, et elle est là. Si vous butez là-dessus, d'abord vous avez besoin de temps, je suis d'accord avec vous, mais si vous butez là-dessus, je ne sais pas comment vous faites pour être catholique. Pourquoi, chers amis? Ce qui nous a sauvés, ce n'est pas un succès, c'est un échec vécu dans l'amour et l'abandon. C'est ça qui nous a sauvés. Et il veut faire pareil dans tes croix, il veut les transformer en gloire. Mais il ne peut pas sans ton autorisation. Et ton autorisation, c'est ton oui. Ton autorisation, c'est quoi? C'est de rejoindre la volonté de Dieu qui te rejoint dans l'instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, chers amis, des gens pas du tout cathos, on trouve ça formidable quand ils le disent, mais quand c'est un curé ou un diacre qui le dit, on se dit, mais attends, il connaît rien à la vie. Écoutez ce que dit le poète indien qui est un peu New Age, je reconnais, mais il a des belles paroles. Rabindranath Tagore, ça vous dit quelque chose certainement? Écoutez ça. Donc c'est pas un catho. La leçon la plus importante à apprendre, ce n'est pas que la souffrance existe, mais qu'il dépend de l'homme de la transformer en joie. Et vous voudriez que je vous dise pas ce message-là? Alors, pour voir la main de la Providence, la première note. Laisse le temps au temps. Il y a quelque temps, je prêchais à des veuves consacrées. Voilà. Donc vous voyez bien, on a passé sa semaine à entendre quelques petites souffrances, vous devinez. Et je vois que chaque personne qu'on recevait, le temps du deuil n'était pas le même. C'est intéressant d'ailleurs au passage, chers amis. On parle du travail du deuil. Ne dit-on pas la même chose pour une femme enceinte? On parle d'une femme en travail. Le deuil est un enfantement, sauf que quand la maman met au monde, généralement c'est 9 mois, à peu près pour tout le monde. Sauf que le travail d'acceptation, ça peut durer 9 jours, et ça peut durer 90 ans, selon les personnes. Il faut respecter le temps de la maturation Et parfois, chez certaines personnes, il faudra qu'elles, comment dire, elles marinent dans la révolte et la colère pour en avoir enfin marre de respirer ce genre et de boire ce genre de boisson pour aspirer à autre chose. Comme c'est beau, les gens qui sont révoltés toute leur vie, et puis à un moment, voilà, hop, in manus tuas, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et ça, c'est une grâce pour le prêtre, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir. C'est... Ça suppose un regard de foi, voir la main de Dieu dans l'événement. Parce que si tu vis qu'au niveau de ton feeling, ce qui est aujourd'hui le lot commun, au niveau du ressenti, eh bien, tu ne ressentiras jamais la main de Dieu, tu ressentiras le côté rugueux de l'événement. Jésus est à l'intérieur de l'événement rugueux. Il n'empêche pas le rugueux, et pourtant, il le transforme. Mais pour ça, il faut descendre à l'intérieur. Un peu comme Sidrac, Misak, Abdenago. Vous vous rappelez ? Rien que les noms, ça vaut le déplacement. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez ? Ils ont refusé d'adorer l'idole. Ça va être bientôt le cas de beaucoup de catholiques, vous allez voir. La démocratie devient de plus en plus totalitaire, vous verrez. Enfin, si vous ne le voyez pas dès maintenant, vous ne verrez rien demain. Et donc, Sidrac, Misak, Abdenago, ils sont condamnés à être brûlés. Et le chef dit, « mon roi, mais je vois quatre personnes !» Il y avait un ange à l'intérieur du feu dans lequel était brûlé, et il n'était pas brûlé. Et l'ange aspergeait, rafraîchissait. Ça, je le vois de plus en plus. Bien évidemment que si tu as mal à la tête, va voir ton médecin. Je veux dire, comme dirait François de Sales, prenons tous les moyens que la Providence nous donne pour essayer de solutionner un certain nombre de choses qui sont difficiles. Mais il y aura plein de trucs dans ta vie qu'un médicament, ça ne les élèvera pas. Et là, ce que je vois, c'est ceci. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils veulent sortir du feu de l'instant présent qui les brûle, alors qu'il faut descendre à l'intérieur, car c'est à l'intérieur que se trouve Jésus, l'ange, qui va te rafraîchir. Quand une personne commence à comprendre ça, elle entre très rapidement dans le secret, le grand secret de la vie. Il faut donc, chers amis, dépasser les apparences. Moi, je vous dis comment je fais. Donc, j'ai compris très rapidement que prêcher des retraites, c'est pas prêcher. Oh, dans l'Église, qu'est-ce qu'il y a comme pipeau là-dessus ? On confond prédication et rhétorique. J'ai compris une chose. En fait, on peut pas donner Dieu. Un prêtre ou un diacre peut pas donner Dieu. Une religieuse peut pas donner Dieu. Des parents ne peuvent pas donner Dieu, parce que seul Dieu donne Dieu. Par contre, si un prêtre, un diacre, une sœur est livrée à Dieu, elle permet à Dieu de se livrer au monde par lui, par elle. Et là, il y a un grand mensonge sur l'enseignement de la prédication. Et donc la vieille dame qui a été à l'origine de ma conversion 15 ans après avoir été ordonnée, Mercedes, elle disait, « Mon père, vous croyez que vous allez convertir vos retraitants avec vos petites conférences sympathiques ?» Je peux te dire que ça calme, hein. Mais surtout, elle ajoute ceci, « Si vous ne voulez pas, dans les retraites, participer à la souffrance que Jésus a pour les retraitants afin d'enfanter de la grâce en eux, vous n'obtiendrez rien. » Regardez comment ce discours n'existe quasiment plus, même de manière officielle. Il y a tromperie sur la marchandise, les amis. Vous m'entendez? Tromperie sur la marchandise. Donc, quand j'arrive en retraite, ça y est, maintenant, je suis familiarisé. Donc, pour aller plus loin, cette nuit fut sympathique, bien évidemment. Moi, je me faisais une joie de venir ici, mais bon, voilà. Donc, il a fallu payer un petit peu, beaucoup. Mais avant, qu'est-ce qu'il faisait, Joël? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et il est passé à un pourquoi en deux mots. Attention, avec la grâce de Dieu, parce que le père Joël n'est pas très fut-fut. Hein. Avec la grâce de Dieu, j'ai compris, il faut passer à pourquoi en deux mots, c'est-à-dire en vue de quoi. Et vous savez ce que je lui dis? C'est tout simple. Quand il m'a réveillé cette nuit pour aller célébrer les messes à 1h, que j'étais pas très frais après le cauchemar, qui était terrible, qui a duré des heures. On ne sait pas si on est dans un cauchemar ou on est dans le réel, c'est ça qui est le truc. Je lui dis quoi? T'en as besoin? Je suis content. Si vous êtes scandalisé par ça, chère maman, comment avez-vous fait pour mettre au monde un enfant? Si vous lisez les évangiles de Saint Jean, chapitre 16, il est dit « La femme sur le point d'enfanter s'inquiète des douleurs de l'enfantement, mais au cœur de tout cela, elle est heureuse parce qu'elle va mettre un enfant au monde. » Les mamans sont-elles des masos? Non, ce sont des mamans d'amour. Et nous voudrions, nous, prêtres, parents, tout ce que vous voulez, enfanter les âmes en dehors de la souffrance offerte. Mais arrêtez de rêver. Et curieusement, ce que je viens de vous dire, c'est l'enseignement de petite Thérèse, celle qu'on présente, l'abandon, le sucre et l'eau de rose. Il n'y a que la souffrance offerte qui enfante les âmes, dit Thérèse. Alors, mes amis, quel est l'enjeu? La grande, grande conversion à demander, tu ne l'as peut-être pas encore vécu. Ok, tu es catholique, tu dis ta messe, tu es à peu près réglo, tu vas, tout ça. Mais la grande conversion, c'est de passer du non, N-O-N, au oui, dans les rien, rien, rien du quotidien. Oui à qui? Oui à Jésus et à sa volonté, car la volonté de Dieu, c'est Dieu. Écoutez, c'est très intéressant ce que dit le Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Dieu dit au peuple, « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » Il t'est proposé de dire oui ou non dans les riens du quotidien. Le non va empirer ton état. Le oui va ouvrir toutes les portes. Et tu auras une beaucoup plus grande sérénité. Tu n'imagines pas le nombre de micro-noms que tu accumules au cours d'une journée et tu t'étonnes après d'avoir accumulé des tensions sur lesquelles tu ne peux pas mettre de mots. C'est là qu'il faut le chercher. Si vous avez vu la tête du prêtre dont je vous ai parlé, entre le début de la retraite et la fin, j'étais mais dans l'action de grâce. Voilà. Mais je voyais, mais sûr, c'était physique, vous me comprenez? Arrêtez de croire que ces histoires-là, c'est que pour l'âme. C'est tout l'être qui sera visité. C'est toute ta vie qui sera transformée. Le oui, on pourrait le dire comme ça. Bon, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais pour moi, c'est tellement parlant. C'est Chiara Luce, cette jeune Italienne morte du cancer, qui est bien heureuse. Elle a été béatifiée il y a quelques années. On lui apprend qu'elle va devoir repasser sur le billard. Elle plonge dans son âme et elle dit « alors qu'elle a un parfait dégoût. Comment pourrait-on avoir du goût pour repasser sur le billard avec un cancer ? Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. Qu'est-ce qui a fait que cette nuit, et là de vous retrouver, tout devient aisé ? Parce qu'il m'a appris à dire, puisque tu veux, ça, cette nuit, je le veux bien aussi. Et ça fait quoi ? Ça fait que quand on commence à travailler, je le ressens, je sens plus du tout le problème. Et il le fait pour nous maintenir petits. Et comme on est maintenu petit, lui, le très grand, peut passer davantage. Et dis pas que c'est une histoire de curé. Si tu le vis en tant que parent, tu le vérifieras avec tes enfants. Tu le verras dans ta manière d'être père et mère. Vous voyez, le docteur Vitoz, intéressant, c'est un thérapeute. Donc, il parle d'émissivité et de réceptivité. Vous voyez bien que le oui que je vous propose est du domaine de la réceptivité, de l'accueil. Et le non, bien évidemment, du domaine de l'émissivité tendue. Et il dit, l'émissivité épuise d'énergie. Parce qu'on est constamment comme ça, quand on est. Tandis que quand vous êtes dans le « puisque tu le veux, je le veux bien », vous êtes dans une attitude d'accueil. Et là, dit Vitoz, le docteur Vitoz, qui a tant fait de bien, eh bien, il y a une reprise d'énergie. Moi, je vous le dis très simplement. Je n'ai jamais tant travaillé de ma vie. J'ai jamais été aussi relax. Et je ne dis pas ça pour vendre mon produit. C'est la stricte vérité. Quel est notre problème ? Nous ne nous recevons pas assez de Dieu. Nous sommes sans arrêt à dire à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Et c'est très fatigant d'être et la créature et le créateur, car tu ne peux pas être le créateur. L'abandon à la providence, avec le « puisque tu le veux, je le veux bien aussi », va augmenter votre sécurité intérieure et va augmenter votre sérénité intérieure. Sans parler, pour tous ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation, vous allez avoir une fécondité. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends pas. Je suis comme le spectateur de Jésus qui a pris les rênes. Là, il faut que j'aille au Chili. On m'a demandé pour aller en Pologne. Après, il faut que je parle en Grèce. Je pars en Grèce. Bon, vous inquiétez pas, c'est en français. Ce que je ne sais pas faire, mais... Mais ce que je vois, c'est... Quand on lui donne les rênes, il prend les rênes. Vous comprenez ? C'est aussi simple que ça. Tiens, un petit mot de Mercedes. La dame aveugle qui est morte à 100 ans. Elle venait aux retraites. Elle était toujours d'un calme, toute cachée. Elle serait là au premier rang parce qu'elle n'entendait pas trop. Et elle me disait souvent quand elle venait aux retraites, comme j'ai tellement vu de cas, même chez des évêques, où elle voyait son âme, c'était à l'étranger. Ça se met à l'aise. Bien. C'est vrai. Donc j'ai vu que c'était vrai. Et elle disait ceci. Vous allez le comprendre sans difficulté, mais vous allez voir l'enjeu. Je sens l'âme de vos retraitants. Ils veulent vraiment Dieu. Et elle dirait la même chose cet après-midi. Mais elle ajoutait, mais il y a un problème. Il lui commande tout le temps. Dieu doit passer à travers la moulinette de nos projets familiaux, pastoraux, spirituels, tout ce que vous voulez. Vous vous étonnez que ça s'effondre, l'évangélisation ? Mais c'est là qu'il faut le chercher. Quand on laisse Dieu être Dieu, il fait son travail. Il rayonne de divinité. Et tu te fatigueras moins. Et tout ça, c'est permis par la vue de foi. de voir la main de Dieu, la volonté de Dieu, surtout dans les événements où tu ne veux pas le voir. Bah parce que ça vient de friter un peu. Je comprends. Pourquoi ça donne une sécurité? Parce que la souffrance en tant que telle est insensée. Et ce qui augmente la souffrance, le physiologiste Claude Bernard disait « Je ne me plains pas de souffrir, mais de souffrir pour rien. » Et que se passe-t-il quand tu découvres la Providence? Un événement qui te paraît totalement contre ce que tu as comme projet, Dieu va s'en servir. Il est donc habité par du sens. Mais ça change tout. Qu'est-ce qui fait que ce prêtre-là, qui allait quitter le salaire, je lui ai dit, de toute façon, vous n'êtes plus prêtre déjà. C'est vrai, même pas votre messe. Puis en plus, vous demandez le pognon. J'ai dit, il faudra rendre le pognon. C'est au laïc tout ça. Vous inquiétez pas, hein. C'était pas sévère. Hein. Je peux vous dire qu'il y avait une complicité et une amitié extrêmement forte. Mais parce qu'il y a amitié, on peut se dire les choses. C'est pas du pas de vague ou de la pommade. Ce prêtre a découvert du sens. En 4 jours, il a découvert un sens qui renouvelle complètement son sacerdoce. À mon avis, en fait, il a jamais été prêtre. Je veux dire, il a été ordonné, mais il est jamais entré dans le sens profond du prêtre. Et Jésus a permis qu'il tombe par terre, qu'il soit complètement essoufflé de son mode de fonctionnement pour entrer dans les vues de Dieu. Oh, la joie que ça me procure, vous ne pouvez pas savoir. Viktor Frankl, psychanalyste, successeur de Freud, ayant fort heureusement pris ses distances avec Freud, qui a fait les camps de concentration. Il dit ceci, vous allez voir, c'est intéressant, il parle en tant que psy, et il va parler de la religion à la différence, vous comprenez, de M. Freud, pour lequel c'était « t'es malade, si t'es religieux, quoi hein. ». Lui, il dit ceci, « Même si la religion, dans son intention première, ne s'occupe pas de guérison, il arrive pourtant que la religion soit efficace en matière de guérison, d'hygiène mentale, parce qu'elle assure à l'homme une sécurité et un enracinement sans pareil. Sans pareil. » L'heure avance. Un autre point important, je vous le dis en peu de mots, seul le oui permet de voir les multiples noms que tu prononces dans une journée sans même t'en rendre compte. Seule l'ouverture permet de voir les fermetures. Le très sérieux catéchisme de l'Église catholique dit que l'homme blessé par le péché a laissé rentrer en lui des fausses images de Dieu. Et ça, je le vérifie dans les retraites, dans l'accompagnement, on est tous avec des fausses images d'un Dieu point trop fin. Puis tu dis le contraire. Ah, vous savez, moi, je suis de Vatican II. C'est le Dieu d'amour, mon pipeau. Ouais. Tu vas voir, la prochaine fois que tu as une tuile, tu vas dire comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive un truc pareil. Donc, c'est un Dieu dont tu te méfies. Il y a une différence entre tes mots et la réalité profonde de ton âme, je peux te dire. Quelques bons mots de Jésus à Sainte Catherine de Sienne sur la Providence. Jésus lui dit, les gens voient que c'est moi la douce et suprême vérité qui distribue à chacun l'état, le temps et le lieu, les consolations et les tribulations. C'est Dieu qui les envoie, dit-il. Suivant qu'il est nécessaire à votre salut, La tribulation n'est pas pour la tribulation. Elle est pour le salut. Moi, j'ai été remercié du séminaire, envoyé en Afrique. En plus, on m'a dit un an, on m'a menti, ça sera 2 ans. Peu m'importe, j'ai vu la main de la Providence. Et s'il m'arrive ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais de quoi ça vient. Ça vient de ce creuset purificateur dans lequel je n'ai pas résisté. Et lui, il n'a pas résisté, Dieu, pour me transformer. Bien sûr, il reste plein de choses à faire. Peu m'importe. Le principal, c'est d'avoir un pied dans le train. Et là, Jésus ajoute, « Si l'âme était vraiment humble, elle verrait que tout ce qui vient de moi, c'est par amour que je le donne. » Là, tu as une très bonne clé pour toi, pour une révision de vie. T'entends bien? Écoute ça. « Si l'âme était vraiment humble, elle verrait tout ce qui vient de moi, c'est par amour que je le donne, et que c'est par amour par conséquent, et avec respect, qu'elle doit recevoir tout ce que je lui envoie. » Deuxième grande partie. Maintenant, j'ai vu la volonté de Dieu, et maintenant, je veux vouloir ce que Dieu veut. Et vouloir ce que Dieu veut, c'est le cœur du réacteur, c'est l'attitude de fond pour s'offrir. Quand on dit à Jésus, puisque tu le veux, je le veux bien aussi, c'est du même coup, c'est comme si on lui disait oui, c'est comme si on lui disait totus tous, tout à toi. L'union de volonté, mes amis, est le cœur de la vie spirituelle. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de ce cœur du réacteur. Écoutez Sainte Faustine, petit journal. Oh, écoutez, non, je vais vous citer la petite Myriam de Jésus crucifié. Vous savez, la petite Myriam Bouardi, là, la petite palestinienne. C'est du hors-cadre encore, ça. On voit bien que dans ces temps qui sont les nôtres, il fait des saints. Alors là, c'est fort. Je vais vous dire, moi, je me sens concerné en tant que prêtre. Et les sœurs qui ont ici, pareil, je suppose, diacres, enfin, je ne sais pas. Écoutez ça. C'est Jésus qui lui dit, « Ma fille, celui qui n'a pas donné sa volonté à Jésus n'a rien fait. » Waouh. Quand il se présente quelque chose de pénible, qui répugne et qu'on le fait, c'est une preuve qu'on a donné sa volonté à Jésus. » Et elle ajoute en parlant de ce temps, là, le nôtre. « Nous sommes maintenant dans un siècle de ténèbres. L'esprit est aveuglé, il ne sait ce qu'il veut, il n'y a que l'obéissance qui puisse nous sauver. » Écoutez, la finale, elle est grave. C'est Jésus qui la prononce, c'est pas le Père Joël. Combien de prêtres et de religieuses tomberont parce qu'ils n'ont pas donné leur volonté à Jésus. Alors, chers amis, la Providence, à certains jours, elle se fait cadeau ou ciseaux. Bon, c'est parce que ça rime, quoi. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Attention, la Providence ne nous transforme pas que lorsque c'est pénible. Saint Thomas d'Aquin parle d'eutrapélie. Je fais exprès de prononcer ce mot qui n'est pas habituel. C'est-à-dire, il dit en substance ceci. Par exemple, demain midi, vous allez prendre, chers amis, un très bon repas. Avec une nuit Saint-Georges, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. Bon, c'est gentil. Vous voyez, vous allez prendre un très bon repas avec un très bon vin et il va y avoir une ambiance familiale de joie. Si tu vis ça dans la charité, tu obtiens des mérites. Vive la nuit Saint-Georges. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, attention, ce n'est pas doloriste, c'est en tout. Quand c'est cadeau, faut goûter, parce que c'est cadeau de Jésus. Mais à certains moments, ce qui est le plus difficile à avaler, c'est les ciseaux, bien évidemment. « Chacun pourrait dire cette prière. Je me suis permis d'en écrire une petite. Jésus, je suis la prunelle de tes yeux. Tu veux tellement mon bonheur que tu organises tout dans ma vie dans ce but. À certains jours, tu te fais providence cadeau pour moi et à d'autres providence ciseaux. Mais même lorsque je sens davantage tes ciseaux tranchants, c'est encore cadeau, car tu n'es que bonté. Lorsque les événements me mettent par terre, c'est pour que tu me relèves, que je fonctionne autrement, plus fort, plus libre, plus sain, plus heureux, plus obéissant et abandonné à ta sainte volonté. Quel est l'enjeu ? Je vous le donne. Vous allez sortir d'ici. Moi, je vous dis simplement mon petit secret depuis... Vous voyez, j'ai vécu une conversion 15 ans après avoir été ordonné. Mais là, dans les toutes dernières années, bon, c'est difficile parce qu'on n'avance que parmi sauts de puce. Mais dans les 5-10 dernières années, j'ai accentué ce mouvement et la vie est complètement changée, quoi. Mais complètement changée, je vous assure. Alors, il faut dire, le petit secret est très simple, il tient en trois affirmations. Puisque tu le veux, je le veux bien, ça va, on a noté ça. Maintenant, c'est quand le vivre ? Dans les rien. Rien du quotidien. Vous allez vous faire doubler sur le périphérique par une personne qui après va se caler devant vous et elle va piler. Avant la récollection, c'était espèce de. Après la récollection, ce sera béni sois-tu, Jésus, pour cette espèce de. Sérieusement, moi, j'arrive de Paris, des fois, vous devinez les périphes, j'aime pas trop ça. Donc, ça arrive constamment. Et avant, je faisais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, à travers ce monsieur qui, éventuellement, même le fait exprès ? Il m'apprend à être patient. Il me montre qu'il y a de l'agressivité. Je n'aime pas qu'on me pile devant. Il n'y a que moi, rassurez-moi. Dans les rien. Ensuite, plus de tri sélectif entre les événements qui t'arrangent. Ah ben ceux-là, tu vas les consommer, mais tu vas mettre à la poubelle les événements qui te dérangent ou te frottent. Plus de tri sélectif. Les tri sélectifs, c'est bon pour la poubelle, mais pas pour la vie spirituelle. Dans l'événement le plus difficile, alors bien sûr, tu m'as entendu tout à l'heure, fais tout pour utiliser les moyens pour enlever le problème si tu le peux. François de Sales recommande, par exemple, d'aller voir le médecin parce qu'il fait partie du plan providentiel. Bon, je ne vais pas y revenir. Mais il y aura plein de situations, ne serait-ce que le gars sur le périphérique, t'auras pas de médicaments, je te signale. Enfin, voilà. Et la vie est faite que de ça. Alors, t'as deux solutions. Soit tu t'arc-boutes, soit tu dis oui. Tu fais plus de tri sélectif. Quand tu fais plus de tri sélectif, tu vas voir la détente profonde qu'il va y avoir. Deuxième chose, tu vas voir comment Dieu commence à te transformer. Parce que tout ce que je t'ai acheté à la poubelle, tout ce que sur lequel tu dis non, Dieu y dit, Joël, je ne prends que la place que tu me donnes. Tu m'as pas dit oui, je n'entre pas. Jamais Dieu n'entre par effraction. Note bien ceci. Et tout ce que tu jettes à la poubelle parce que t'en veux pas, eh bien, c'est du perdu. Comme dit un proverbe hindou dans la Cité de la Joie de Dominique Lapierre, tout ce qui n'est pas donné avec joie est perdu. Alors voici ce que dit François pour nous montrer comment il ne faut pas faire de tri sélectif. Considérons tous les biens intérieurs et extérieurs, les peines intérieures et extérieures, tout ce que la divine providence a disposé pour nous. Et devant tout cela, ouvrant tout grand les bras, consentons à la sainte volonté de Dieu, embrassons-la de tout notre cœur. Ô Dieu, que votre volonté soit faite, non seulement en accomplissant vos commandements, mais en acceptant aussi les souffrances, les épreuves et les peines. Les rien, plus de tri sélectif, et même quand tu chutes, quand tu tombes dans le péché, quand tu as un mot plus haut que l'autre, quand tu t'énerves en communauté ou en famille. Il faut aller récupérer. Mais mon père, si c'est un péché, c'est pas un bien. Oui, mais la miséricorde, c'est fait pour qui? Et la puissance de la providence, c'est fait pour qui? Bien évidemment que tu iras t'en confesser ou tu demanderas parce qu'il faut faire réparation. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu passer ton temps à cultiver la tristesse de t'être ramassé? Ou vas-tu dire, puisque tu le veux, que je me sois énervé, et c'est bon pour mon humilité, je le veux bien aussi. Alors là, tu vas guérir du perfectionnisme, tu vas faire une avancée dans ta vie spirituelle, c'est-à-dire que les chutes vont devenir des marches de l'escalier qui vont te hisser en Dieu. Bien évidemment, vous aurez compris, je vous demande de ne pas tout faire pour tomber dans le péché. Supposons que c'est votre chemise, celle que vous avez sur le dos. Regardez, il y a un pli. Je sais ce qu'il en est, parce que moi, je fais mon repassage. Eh bien, il en faudra des coups de fer, surtout quand il n'y a pas le pit-pit. Il en faudra des coups de fer avant que le pli se déplie. Mais quelque part dans les mauvais plis, il en restera toujours une trace, n'est-ce pas, mesdames? Tandis que les mauvais plis de l'âme, avec le « puisque tu le veux, je le veux bien », les petits « oui » dans les « rien », plus de tri sélectif, et même quand je tombe, eh bien, ça va déplier ton mauvais pli intérieur. Ce prêtre était archi en colère avec son autorité. À la fin, il vient me voir et il reçoit une lumière extrêmement paisible. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais Jésus, il a accepté que Jésus lui montre. Voilà. C'était fini, il n'y avait plus de colère. Il va devenir prêtre. Retenez bien, je résume tout en une mot. Puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Dans les rien, plus de tri sélectif, et même jusque dans les chutes. Commence par ça, je t'ai dit que c'est le cœur du réacteur, parce que à la suite de ça, bien évidemment, j'ai pas pu tout dire, à un moment, tu voudras t'offrir comme hostie. Mais je te propose des micro-offrandes dans les rien du quotidien, parce que ça commence par ça. Est-ce que ça va? Maman Marie, bénis-les, sois leur maman, enseigne-leur ça. Enseigne-leur combien c'est simple. Faut juste être persévérant. Et même les chutes vont devenir des marches de l'escalier qui va nous hisser en Dieu.